Courage, plus qu'une heure. Comme on commence en retard, je vous demanderai de garder l'heure, parce que déjà l'heure qui me reste, c'est trop court pour tout ce que j'avais prévu, mais bon, je vais essayer de sauter des choses. Je vous disais qu'on n'en avait pas tout à fait fini avec les gros sabots de Satan. Et en fait, les gros sabots de Satan correspondent à, comme on le sait, vous le savez très bien, à trois grandes passions qui nous habite, c'est la soif de jouissance, la convoitise, la possession donc, et le goût du pouvoir. Et si vous analysez la plupart des comportements humains dont nous venons de parler, qui déclenchent les guerres, les rivalités, les mensonges, etc., vous retrouverez toujours au moins une de ces trois passions sous-jacentes. Et il est étonnant d'ailleurs de voir, enfin il n'est pas étonnant, c'est exemplatif de voir que dans le récit de la Genèse et dans la tentation du Christ au désert, on retrouve exactement les trois tentations qui correspondent aux trois passions fondamentales. Dans la Genèse, le fruit que le serpent propose à Isha est bon à manger, jouissance, désirable pour la vue, possession, précieux pour réussir, donnant le pouvoir. Dans les tentations du Christ au désert, le diable lui propose aussi de manger, jouissance, de sauter du temple, puissance, et de posséder le monde, possession, convoitise. Et le caractère d'ailleurs complet des tentations, pour dire qu'on a vraiment fait le tour dans la fin du récit de la tentation du Christ au désert, c'est que l'Évangile nous dit « ayant épuisé toute tentation ». Il a vraiment tout essayé. Le diable s'éloigna de lui jusqu'au temps marqué, c'est-à-dire jusqu'à l'heure de la passion. Maintenant, nous allons quitter les gros sabots et nous intéresser aux gants de soie et aux chaussons de danse de Satan. Vous savez qu'on représente Satan sous la forme d'un affreux bouc dans l'imagerie populaire, mais il est bien plus subtil que ça. Il use justement de tactiques subtiles, discrètes, délicates. C'est un artiste. Comme l'écrit Christian Bobin, le diable, sans aucun doute, aime ce qui est fluide, lisse et rapide. S'il y a un enfer, et il y en a un, nous y sommes, il nous aura menés gentiment, par légères poussées, sans aucun drame. Escamoter le réel, c'est son charme. Le diable est un jeune homme moderne, ouvert et sympathique. L'angélisme est sa vraie nature. Et je trouve que c'est pas mal exprimé du tout. N'oublions pas que son but, toujours, il n'a qu'un but, c'est facile à repérer, son but c'est toujours de briser, casser, entraver, couper, et fondamentalement de séparer l'homme de Dieu, c'est-à-dire séparer le créé de la créée, et nous égarer dans un labyrinthe. Et donc il s'y emploie avec, sans relâche d'abord, mais avec intelligence, créativité, subtilité, discrétion, délicatesse, toutes ces qualités de cet être spirituel que l'on n'appelle pas pour rien le malin. Il aime tellement se montrer discret qu'il parvient à se faire oublier et à faire croire à son inexistence, comme l'écrivait un autre père de l'Église qui s'appelait Charles Baudelaire. La pire ruse de Satan, disait-il dans le Spleen de Paris, la pire ruse de Satan est de faire croire à son inexistence. Et on y tombe dans ce piège. Et il a ajouté dans une autre œuvre, « Tout le monde le sert, mais personne n'y croit. sublime subtilité du diable. C'est pas mal non plus comme citation, je trouve. Alors je vais vous proposer maintenant une série, je les limiterai parce que nous n'aurons pas le temps, une série de tentations qui semblent tout à fait anodines, mais auxquelles nous sommes soumis quotidiennement, et qui peuvent, comme une, vous savez, les dentistes ont une expression, c'est la carie qui ronge à bas bruit. Elle ne fait pas de bruit, on ne la voit pas, mais la dent est rongée de l'intérieur comme une pomme l'est par le verre. Alors la première porte d'entrée de Satan, porte multiple d'ailleurs, et douce, c'est le carrousel des pensées. Quoi de plus noble que la pensée chez l'être humain? C'est ce qui nous distingue, dit-on, des animaux. Mais combien de pensées défilent journellement dans nos petites têtes? Toutes de pensées de toutes les formes, de toutes les couleurs, contradictoires, positives, négatives, ça change en quelques secondes. Elles sont enchevêtrées, sans cesse, imprévues. Et Satan, c'est bien connu par la tradition, profite de ces portes d'entrée que sont nos pensées pour glisser ses inspirations malfaisantes. Exactement comme l'ennemi, comme je vous rappelais tout à l'heure, qui ensemence notre champ intérieur. Maxime le Confesseur écrivait « Par les pensées, les démons nous font la guerre. Et cette guerre est plus dure que celle qu'ils nous font par les réalités extérieures. » Celle dont je vous parlais tout à l'heure, les gros sabots. C'est beaucoup plus subtil, les pensées. Et Fabrice Hadjadj écrit ceci, que je trouve pas mal exprimé. « Que puis-je contre les images intérieures? Partout elles me suivent, et fermerais-je les yeux que plus forte serait leur hantise. Le diable est plus portable qu'un téléphone, plus implanté qu'un pacemaker. Lui aussi s'est entré toute porte close. Les sectaires qui croient que la souillure n'est qu'à l'extérieur ne font que mieux le recevoir dans leur cercle fermé. » C'est pourquoi les pères de l'Église ont toujours fait de la lutte contre les pensées et du discernement des pensées une activité essentielle, fondamentale de la vie spirituelle. Voici ce qu'en disent par exemple Alphonse et Rachel dans la guérison des maladies spirituelles. Le premier ennemi que l'homme rencontre dans son exil après la chute, c'est le tumulte des pensées. Les pensées multiples empêchent notre esprit de se souvenir de Dieu. Elles virevoltent et nous assourdissent comme un essaim d'abeilles et nous devenons semblables à des vierges folles. Les pensées justes et les pensées fausses s'entremêlent. Il n'y a plus de discernement. Le discernement des esprits est d'une importance capitale. Reconnaître la nature des pensées, leur provenance, leur trajectoire, c'est un combat. Car il faut vigilance et attention pour dégager l'âme du bavardage incessant qui la secoue et qui l'égare. Il y a, comme vous le savez, plusieurs types de pensées, et c'est ce qu'on appelle la théorie ou la doctrine, ou le principe des trois volontés dans la lutte ascétique. La volonté divine, la volonté démoniaque et la volonté humaine. Et ces trois types de volonté sont exercés à partir de trois types de pensées. Les pensées que nous recevons par la grâce de Dieu, l'Esprit Saint nous visite, il nous éclaire. Les pensées divines peuvent également nous être communiquées par le monde angélique. Puis, il y a nos pensées naturelles, véhiculées par le cours des siècles, l'inconscient collectif, produites par les arts, la culture, etc. Enfin, comme nous manquons sans cesse de discernement, les esprits malins investissent notre esprit et nous sommes harcelés par les pensées impures. Le malin prend deux trajectoires pour troubler notre esprit. Soit il nous suggère directement, soit il s'insère dans nos pensées désordonnées. C'est pourquoi les pères parlent de combat contre les pensées, qui est donc aussi un combat contre les malins. C'est à nouveau une citation d'Alphonse et Rachel. Un petit mot aussi du processus d'enracinement des pensées mauvaises par la tentation. Il y a différents stades, en réalité cinq. Le premier stade, c'est le stade de la suggestion. Le malin me glisse une pensée qui peut me détourner du chemin. Deuxième stade, le discernement, stade essentiel. Soit nous prêtons l'oreille à cette pensée malicieuse, soit nous la laissons passer sans nous y arrêter, soit nous la chassons si elle persiste. Troisième stade, l'intérêt et l'acceptation. Nous prêtons attention à la pensée, nous nous y intéressons et nous y acquiesçons. Au fond, pourquoi pas? Comme je vous l'ai dit, la tentation se présente presque toujours sous un jour très sympathique et pourquoi pas? Et puis, ce n'est pas pour une fois dans le fond. Quatrième stade, nous passons à l'acte, la réalisation, comme la pensée nous y incite. Et au cinquième stade, alors, c'est là quelque chose de récurrent qui s'installe en nous, c'est ce qu'on appelle la passion. Nous y prenons goût à ce comportement malicieux. Il est devenu habituel et la pensée, et une passion nocive s'est installée en nous, c'est-à-dire que l'ivrée a pris racine dans notre terre. Le patriarche Enouda écrivait « Si nous permettons à la mauvaise pensée d'entrer en nous d'abord en lui prêtant l'oreille, puis en entrant en dialogue avec elle, elle va nous séduire, pénétrer en nos profondeurs affectives et finalement envahir notre cœur. C'est le processus de toute passion dont nous sommes les victimes. Le démon nous pousse dans le précipice. » Comment lutter contre ce processus? En étant vigilant et en invoquant constamment l'Esprit Saint qui seul peut nous donner ce qu'on appelle le don d'intelligence, qui est un des sept dons de l'Esprit. Deuxième attitude qui n'a l'air de pas très grave, mais qui en réalité nous éloigne et nous est inspirée par Satan, c'est une attitude qui est double, elle a deux visages, mais elle aboutit au même résultat, c'est la léthargie spirituelle et l'activisme mondain. Le démon nous entraîne insidieusement dans deux attitudes, contraires en apparence, mais qui atteignent le même but finalement, notre indifférence vis-à-vis de Dieu, qui reste étranger à notre vie, à nos pensées, à nos désirs. Première attitude, c'est l'engourdissement, l'endormissement, l'oubli de l'essentiel. Dieu, la prière, la vie spirituelle, bon, oui, peut-être, mais plus tard, on verra bien, ou bien non, j'ai d'autres choses à faire. Que chacun reste chez soi, qu'ai-je à faire dans ma vie de, si je ne fais pas de tort aux autres, c'est déjà pas mal. On entend souvent ça. La deuxième attitude, c'est l'activisme effréné, le tourbillon d'activité qui m'éloigne de toute pratique spirituelle. Je n'ai pas le temps à consacrer à ces histoires, à ces futilités, c'est bon pour les moines, ou bien les femmes âgées, les pensionnées. Moi, je suis un homme responsable, une femme responsable, chargée de responsabilité. La méditation, si elle augmente ma concentration, ma performance, alors oui, d'accord, je serai meilleur, mon entreprise va m'apprécier, mais méditer pour méditer, prier pour prier, non, on n'en est plus là, c'est le Moyen-Âge. Et attention, je ne parle pas ici des autres personnes, je parle de moi-même. Et je ne suis pas préservé du tout, de ces deux tentations. Personne n'est à l'abri. Je laisse à nouveau la parole à Amba Shenouda qui exprime bien ces deux comportements insidieux qui nous éloignent de Dieu. L'Écriture sainte définit l'homme loin de Dieu comme un endormi. On le voit dans les psaumes. Il ne sait rien de son âme et de sa situation. Il n'a pas le moindre soupçon de sa dimension spirituelle. Son besoin, c'est d'être réveillé. Il s'agit bien de nous réveiller du sommeil de l'inattention. Le pécheur est narcosé, abruti. Il ne sait pas qui il est ni ce qu'il fait. L'homme pécheur est dans un tourbillon et il oublie son propre esprit. Il oublie Dieu. Endormi, il ne sait plus ce qui est vrai. Malgré tout, il est persuadé quant à lui de sa grande vigilance. N'occupe-t-il pas le monde entier par son activité fébrile et sa volonté de puissance? Satan, c'est bien connu, endort d'abord la conscience d'un homme pour le faire chuter ensuite. Une des ruses les plus puissantes qu'utilise le démon pour détruire la vie spirituelle, c'est de jeter l'homme dans l'activisme extérieur. Ce qui est subtil dans cette tentation, c'est qu'elle ne s'attaque pas au spirituel directement, mais ne lui laisse aucune place, si bien qu'on l'oublie rapidement. La stratégie des esprits est simple. Ils savent que lorsque l'homme s'arrête, sa nostalgie spirituelle peut se manifester à lui. Il risque alors de percevoir tout à coup la voix de Dieu au fond de lui. Ou encore, il peut découvrir sa propre conscience qui l'interroge. Notre époque technologique fait de l'homme une victime des machines, de leur vitesse, du tourbillon des attractions multiples. Il peut être suspendu à son téléphone ou à ses petits écrans pendant des heures, sans trouver 10 minutes pour se retirer dans la prière et le recueillement. L'activisme a pris racine dans le subconscient. Quand Dieu visite sa bien-aimée, l'humanité, l'homme, chacun d'entre nous, elle est occupée par 1000 choses qu'elle trouve plus intéressantes et lui tourne le dos. N'est-ce pas stupéfiant? Dieu nous aime et cela nous laisse indifférents. Il nous parle et nous ne lui répondons pas. Notre suractivité témoigne bien que Dieu n'a pas de place dans notre cœur. Et s'il en a une, c'est de toute façon après tout le reste. En réalité, si notre temps est occupé par l'action ou le faire incessant, c'est parce que notre cœur est occupé par d'autres centres d'intérêt que Dieu. Le démon n'empêche jamais directement l'homme de s'approcher de Dieu, mais il lui fait miroiter des appâts plus plaisants à ses sens. Autre comportement extrêmement fréquent et extrêmement nocif, terriblement sournois comme son inspirateur, c'est le jugement et la médisance. Est-ce que vous n'êtes pas frappé, comme je le suis, du caractère omniprésent du jugement d'autrui, qui alimente tant de pensées et tant de conversations quotidiennement? Nous sommes parfois assaillis, je suis assailli de pensées dénigrantes vis-à-vis des autres. Qu'on résiste rarement au plaisir d'exprimer tout haut, il faut partager ça. Tu as vu celui-là et tu sais comment elle est. Ah oui, celui-là, on le connaît. Ah, ça ne s'arrange pas avec elle, etc., etc. Ce sont des conversations et des pensées quotidiennes, mais des dizaines, des centaines de fois par jour, on peut entendre ça partout. Je me souviens d'avoir travaillé à la Tour du Midi dans un service qu'on appelait paysager. Vous savez, c'est les grands bureaux avec les plantes. Et l'essentiel des conversations tournait autour de ça. T'as vu celle-là? Comment elle est encore habillée? Tu sais ce qu'il m'a dit? Mais tout le temps, sans arrêt, à part la technique de, puisque c'était l'office des pensions, ce n'était que des conversations sur les autres. Eh bien, je propose que nous fassions l'exercice pendant le temps de l'Avent. Je vous assure, c'est extrêmement riche et instructif. Faire l'exercice de relever dans une seule journée toutes les pensées et paroles négatives que nous recevons et que nous émettons nous-mêmes. C'est tout à fait étonnant. Satan nous pousse allègrement dans la voie du dénigrement d'autrui et du jugement d'autrui. C'est si bon de se laisser aller, n'est-ce pas? Un petit peu de temps en temps, ça ne fait pas de tort. Et tellement banal que nous ne nous en rendons même plus compte. Nous passons tout à fait à côté de ce que dit le Christ. Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés. La mesure que vous employez pour les autres sera celle avec laquelle vous serez mesuré. Celui qui traite son frère de raca est passible du Sanhédrin. Celui qui lui dit insensé est passible de la géhenne de feu. Le jugement est une peste sociale, une gangrène de l'âme. Il ronge, il sape la bienveillance et l'écoute, et toutes les relations individuelles et collectives. Et Mgr Jean allait même un peu plus loin, parce que ici nous venons de parler de tout ce qui est négatif, de tout ce qu'on émet comme pensée et paroles négatives vis-à-vis des autres dans une journée. Mais Mgr Jean disait, ne parlez jamais des autres en leur absence, même, disait-il, pour dire du bien. Pourquoi? Parce que la pente est extrêmement glissante. On sait bien que quand on commence à dire du bien, régulièrement et très rapidement, on compense en glissant quelque chose qui est beaucoup moins bien que ça. Et donc nous sommes finalement toujours dans le jugement, que le jugement soit positif ou négatif, nous sommes toujours dans le jugement. Et donc dans la comparaison, voire dans la rivalité, la jalousie, l'envie, le mépris. C'est pour ça que la tradition nous donne ce très sage conseil, regardez Dieu de face et les autres de profil. Conseil bien difficile à appliquer. Ajoutons à cela ce qui paraît aussi essentiel, c'est le danger de se juger soi-même. Il n'y a pas que les autres qu'on juge, on se juge soi-même, on s'évalue toujours, négativement, positivement, avec très souvent à la clé, soit un sentiment qui nous flatte, qui flatte notre ego, la vanité, sentiment parfois de supériorité, très indulgent, soit le sentiment d'échec, d'infériorité, d'auto-dévaluation et de culpabilité. Et donc je vous propose très concrètement, en cette période de l'Avent, mais ça c'est un exercice à faire de la vie entière, c'est de repérer toutes les pensées négatives qui nous viennent sur les autres, et toutes les paroles qui nous viennent, et surtout d'y résister, ne pas entrer dans la pensée, ne pas entrer dans la parole dénigrante. Je vous assure que si on venait à appliquer ça pendant toute la durée de l'Avent, quelque chose de fondamental aurait changé dans nos vies. Un autre comportement tout aussi quotidien et tout aussi banalisé, c'est le manque d'écoute, la non-écoute, l'absence d'écoute. C'est universel. Et ça témoigne du même désamour du prochain, l'incapacité d'écouter. Faisons un petit jeu d'observation tout simple. Nous regardons deux personnes, nous écoutons, nous regardons deux personnes en conversation. L'une raconte ses affaires, ce qu'elle vient de vivre, ses projets, sa famille, sa nouvelle voiture, ses vacances, etc. Que fait l'autre en général? Eh bien, l'autre va lui couper la parole très rapidement. C'est comme moi, et moi j'ai ceci, et j'ai le projet, et se fout complètement de ce que le premier a à lui dire, du moment qu'on peut placer notre propre histoire. Eh bien ça, c'est quelque chose, vous pouvez l'observer partout, partout, partout. C'est un véritable dialogue de sourds, des monologues superposés. On ne s'écoute pas. C'est une sorte de bavardage autistique qui nous isole dans notre bulle, chacun dans son petit monde. Combien de personnes, faites un peu le test parmi vos connaissances et amis, combien de personnes savent réellement écouter? Combien? J'ai, évidemment, vous me direz, on est dans le jugement, mais c'est simplement pour repérer au point de départ ce comportement. Que dis-tu?
C'est de l'analyse.
Oui, c'est-à-dire qu'on peut observer le comportement de nos semblables et le nôtre, parce que si je vous conseille d'observer les autres, c'est aussi pour nous observer, nous, est-ce que nous savons écouter quand l'autre nous raconte, sans directement avoir ne fût-ce que l'envie, même si nous ne le faisons pas, de placer notre propre affaire. Eh bien, c'est tout à fait édifiant de faire ce petit test. Donc, la question ici très concrète est, suis-je capable d'écouter, sans interrompre, sans être distrait, sans vouloir à tout prix placer ma propre histoire, en faisant silence pour laisser pénétrer en moi la parole de l'autre dans sa profondeur. Voilà un exercice quotidien à pratiquer sans modération. Et pourquoi mettre ça en relation avec Satan? Ben, ça me paraît évident. Satan est un personnage qui n'écoute pas. Il est rempli de ses propres paroles, de ses propres pensées, de ses propres projets, et surtout pas écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la pire des choses qui puissent lui arriver. C'est pour ça que le Christ répète sans arrêt, ils ont des oreilles et ils n'entendent pas. Et que la Bible, et en particulier dans l'Ancien Testament, écrit et dit comme un leitmotiv, écoute Israël, mais écoute donc, ouvre l'oreille. C'est exactement la parabole du semeur, j'entends la parole divine, mais je suis trop pris par les soucis du monde, mes projets, mes propres pensées pour qu'elles puissent s'enraciner en moi. À l'opposé de cette attitude, nous avons cette personne extraordinaire, Marie, qui elle est totalement dans l'écoute. Son être est totalement réceptif à la parole, à tel point que la parole s'enracine en elle et la féconde, et que le Verbe va naître de son sein. Très souvent, de manière inconsciente, quand nous en sommes fermés à la parole divine, et à la parole fraternelle, nous étouffons en nous le féminin de notre être. Le féminin se caractérise de manière ontologique par l'accueil dans une terre, dans notre terre intérieure, de ce qui peut ensemencer et porter du fruit. Réceptivité, accueil d'une semence que d'autres ou le tout autre nous donne. Je vous lis ici un beau passage de Fabrice Adjadj dans le livre que je vous ai renseigné. Portez l'autre en soi. Laissez faire en son sein une croissance obscure. Ces qualités du féminin ne sont-elles pas exactement celles de l'âme par rapport à son créateur et sauveur? Car l'âme doit être métaphysiquement dans une posture féminine par rapport à Dieu, celle d'une réceptivité à la grâce qui opère en nous, malgré nous, comme dans la parabole racontée par Marc, comparant le royaume à un grain qui pousse tout seul. Vous vous rappelez que nous dormions, que nous soyons éveillés, ça pousse. Cette féminine posture est précisément celle que renie le démoniaque. Le diable est sans entrailles. Il n'accueille pas l'autre en son cœur comme ce qui lui serait le plus cher que lui-même. C'est pourquoi Satan craint Marie. Il déteste cette ouverture à la grâce. Et c'est pourquoi la tradition, comme je vous le disais tout à l'heure, nomme Marie le fléau des démons. Un saint de je ne sais plus quelle époque, Grignon de Montfort, écrivait à ce propos, l'antique serpent, on sait qui c'est, l'antique serpent appréhende plus Marie, non seulement que tous les anges et les hommes, mais en un sens plus que Dieu lui-même, parce que Satan, étant orgueilleux, souffre infiniment plus d'être vaincu et puni par une petite et humble servante de Dieu, et son humilité l'humilie plus que le pouvoir divin. Et Fabrice Adjadj en ajoute encore une couche. Marie fait plus peur à Satan que Dieu, non seulement parce qu'elle est humble, mais parce qu'elle est charnelle, ou pour tout dire les deux à la fois, parce qu'elle accueille dans ses entrailles la plénitude du mystère divin. Il craint davantage Marie que Dieu, car il lui est plus humiliant d'être écrasé par une jeune fille que par le Tout-Puissant lui-même. Autre tentation subtile, je l'appelle le spiritualisme. Voilà quelque chose a priori de moins évident. Satan, comme vous le savez, est un pur esprit. Il n'y a aucune trace de matière en lui. Il déteste d'ailleurs la matière. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, il ne supporte pas que cet être de chair et de sang qu'est l'être humain puisse être élevé à la gloire divine, à la ressemblance. Que Dieu veuille épouser la créature, sa créature, voilà un projet totalement fou et inacceptable aux yeux de Satan. Comment l'homme qui a un corps pourrait-il être élevé dans l'intimité divine et participer à la vie trinitaire, être déifié? Et donc Satan a une fâcheuse tendance à transmettre sa détestation de la chair, son horreur de la matière, de le transmettre à l'être humain. Par exemple, est-ce que vous avez déjà perçu, je crois qu'on l'a déjà dit, que le commun dénominateur de toutes les hérésies christologiques, c'est le refus de l'incarnation de Dieu dans un corps humain. Certains disent que l'incarnation est illusoire, d'autres qu'elle ne peut avoir réellement lieu car le Christ soit n'était pas Dieu, c'est l'arianisme, soit s'il était Dieu, que sa divinité dominait son humanité, c'est le monophysisme, ou qu'il n'y a pas vraiment eu d'union des deux natures, la nature divine transcendant toujours la nature humaine. Donc, on la met de côté, on l'oublie. Ce qui veut dire que l'intelligence ne peut concevoir, l'intelligence humaine, ne peut concevoir et encore moins accepter que le tout autre s'humilie, quitte sa transcendance, pour vivre dans un corps humain souffrant et mourant sur une croix. Sans aller jusqu'aux hérésies qui sont peut-être un exemple extrême, nous rencontrons une autre tendance spiritualiste très répandue, qui est la tendance à planer au-dessus de la matière, à mépriser le corps, et à charger la chair de tous les maux. Rappelez-vous ce fameux péché de la chair, qui a fait des ravages en Occident depuis saint Augustin. Ce qui fait mal au diable, écrit Fabrice Hadjadj, c'est que la foi soit incarnée, car monsieur le spiritualiste est favorable à la foi, pourvu qu'elle soit désincarnée. Et ce qui fait le fond de sa rage, c'est que par l'incarnation, l'Éternel se soit rendu visible en un enfant, que le visible désormais soit l'unique chemin vers le Dieu invisible, que le corps dorénavant soit en contact direct avec le Verbe infini. Troisième aspect de cette tentation subtile du spiritualisme, après le refus du corps et les hérésies, c'est une certaine tendance qu'on peut avoir à se gorger de beaux textes, de beaux offices, de belles paroles, en oubliant que ce qui importe, la seule chose qui importe, c'est la relation concrète avec l'autre. Dans notre vie de tous les jours, ce sont les rencontres, l'écoute, la bienveillance, la compassion. Et donc, c'est mettre les mains dans le cambouis, si vous voulez, plutôt que de s'évader dans un spiritualisme désincarné. Et d'ailleurs, le Christ dira, ce n'est pas celui qui me dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Et c'est quoi la volonté de mon Père, de son Père? Isaïe le décrit au chapitre 5. Le jeûne auquel je prends plaisir, le jeûne, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés, partage ton pain avec celui qui n'en a pas, fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière brillera comme l'aurore, et ta guérison germera. Alors tu appelleras le Seigneur, et il te répondra. La tentation de se réfugier dans l'abstraction d'une vie spirituelle désincarnée, déconnectée du réel, est bien réelle. Et Thérèse d'Avila mettait en garde ses sœurs contre ce piège. Une fois détachés du monde, écrivait-elle, et de nos proches, pour nous enfermer ici, dans le monastère, il nous semblera peut-être que nous n'avons plus de combat à soutenir. Oh, mes sœurs, gardez-vous de pareille sécurité. Vous ressembleriez à quelqu'un qui se couche bien tranquille, parce qu'il a soigneusement fermé ses portes par crainte des voleurs, quand il les a laissées dans sa maison. Or, c'est nous-mêmes que nous enfermons. Et vous vous en doutez bien, nous ne saurions rencontrer de pires larrons. Autre tentation tout à fait répandue, c'est la vaine gloire. Nous avons vu la vaine gloire. Nous avons vu le Christ traiter Pierre de Satan, parce qu'il rejetait la révélation des souffrances du Christ et la mort de son maître bien-aimé. C'est une réaction bien compréhensible que nous aurions certainement eue, en tout cas moi je l'aurais eue à la place de Pierre. Et pourtant cette réaction est contraire à l'amour divin. Quelle est la tentation omniprésente chez l'homme? C'est celle de la force, de la gloire, du triomphe, fût-ce pour une bonne cause. Pierre, comme tant d'autres, ne pouvait concevoir qu'un Messie triomphant, un Christ tout-puissant, qui terrasse ses ennemis, qui s'impose avec l'aide des armées angéliques. Impossible d'imaginer un seul instant que le Fils de Dieu puisse être humilié, bafoué, torturé, rejeté, mis à mort. Et l'Église ne s'est pas privée, elle-même, de sombrer dans le triomphalisme, la violence et la répression, en autorisant, par exemple, les tortures et le meurtre individuel dans l'Inquisition, ou collectif, les croisades, le massacre des infidèles, entre guillemets, les pogroms contre les Juifs, pour imposer sa foi en un Dieu qui, coûte que coûte, doit triompher par la force, comme un monarque terrestre. Fabrice Hadjadj, à nouveau, exprime avec justesse le paradoxe divin de l'incarnation et de la faiblesse apparente de Dieu. que saint Paul exprime d'ailleurs très bien dans le célèbre passage aux Philippiens, lui qui était de condition divine, n'a pas considéré comme une proie à saisir la condition qu'il est égalé à Dieu, mais s'est fait esclave. Vous connaissez tous ce passage, chapitre 2 des Philippiens. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure de l'étrange dialogue entre le Christ et les démons. Vous savez que le Christ, on l'a vu tout à l'heure, intime aux démons l'ordre de se taire, de ne pas révéler son identité divine. Parce que les démons la connaissent bien entendu. Ils ont une grande intelligence. Le Christ exige qu'on teste son identité et que l'on cache ses miracles qui attestent sa puissance. Il avertit sévèrement le lépreux, et lors de la résurrection de la fille Jaïr, il recommande avec insistance que personne ne le sache. Cette réticence est une parole. Loin d'étouffer la proclamation, elle la déploie en profondeur. Loin de rejeter son règne, chaque Notre Père en demande l'avènement, elle l'affirme, mais comme un règne d'amour et non de force. Comme un royaume pour les misérables qui ont besoin de miséricorde, et non comme une monarchie où tous seraient fascinés par le spectacle de la performance. Plus on réduit le Christ à un faiseur de miracles, moins on peut le reconnaître comme sauveur sur la croix. Plus on l'exalte en roi temporel comme au jour des rameaux, et moins on le supporte en agneau à l'abattoir. Si bien que ceux qui l'avaient acclamé lors de son entrée à Jérusalem se mettent à le huer lors de sa sortie vers le Golgotha. Il se laisse chercher. Le don de la révélation ne va jamais sans un certain retrait, une certaine pudeur. Jésus pourrait faire descendre des armées d'anges plus efficaces que nos meilleurs experts en marketing, mais il n'est pas le séducteur justement. On ne peut forcer une adhésion intellectuelle. On peut forcer une adhésion intellectuelle, mais on ne peut forcer un cœur. Et les signes qu'il donne, Jésus, respectent donc notre intelligence. Il la préserve du viol de l'absurde, mais il la protège aussi contre la violence de la gloire. Si pour nous, ils ne produisent pas d'évidence éblouissante, qu'il nous contraindrait en esclaves, c'est qu'il nous veut nous libérer en frères. Autre tentation, après la gloire, la vaine gloire, la recherche par la violence, le triomphe, c'est celle de l'autosuffisance. Et là, nous sommes vraiment dans notre monde contemporain. Tentation occidentale, contemporaine, s'il en est. Je ne sais pas si vous avez déjà été frappé par le fait que de tout temps, dans les cultures qu'on appelait traditionnelles, l'être humain s'est senti conscient de sa faiblesse, de sa fragilité, dépassé par quelque chose ou quelqu'un qui le transcendait. En un mot, l'homme savait se tenir à sa place. Et pourtant, un phénomène nouveau a surgi, et a pris de plus en plus d'ampleur depuis l'époque qu'on appelle des Lumières, mais qu'on devrait parfois, en tout cas sur le plan spirituel, appeler des Lampions, eu égard à leur très faible rayonnement en dehors des sciences humaines. C'est le sentiment d'autosuffisance narcissique que l'homme occidental qui pense pouvoir se passer de Dieu, ou du moins de l'idée étriquée que nous faisons de Dieu. La personne, l'hypostase au sens théologique du terme, nous en avons déjà parlé souvent, reste profondément méconnue par notre société. Elle est enfouie sous l'individu qui, lui, se veut tout-puissant, alors qu'il est dans sa profondeur, de son inconscient, hanté par la peur, la faiblesse, l'angoisse. Dans un beau livre consacré aux pères sophronies, l'auteur Sakharov écrivait « Les individus, non pas les personnes, mais les individus, sont des égaux tournés vers eux-mêmes. Ils s'enferment dans une illusion d'auto-détermination et d'auto-référence, et finalement d'auto-déification. Exactement la tentation décrite au chapitre 3 de la Genèse. Et donc à la révélation du Dieu homme, beaucoup de personnes à notre époque préfèrent celle de l'homme-dieu. Que vient faire un dieu dans nos vies, puisque nous sommes tout-puissants, que tout est possible, que tout ou presque est permis? Rappelons-nous cette phrase de Dostoïevski que j'ai déjà citée. Puisque Dieu et l'immortalité n'existent pas, fait-il dire à Ivan Karamazov, puisque Dieu et l'immortalité n'existent pas, il est permis à l'homme nouveau de devenir un homme Dieu. Tout est permis. Pour un Dieu, il n'existe pas de loi. Dostoïevski écrivait ça de manière prophétique il y a plus d'un siècle. Et pourtant, cette tendance n'a fait que s'accentuer au fil du temps. Et le philosophe Bertrand Vergely, je ne sais pas si tu le connais, Myriam, a consacré un livre à ce phénomène tout à fait contemporain, l'homme-dieu. Ça s'appelle « La tentation de l'homme-dieu », dont je vous lis un petit extrait tout à fait exemplatif. « La post-modernité, comme elle ne croit plus en Dieu, pense que l'homme explique tout. Elle fait de celui-ci un Dieu, l'homme-dieu. Détestant Dieu parce qu'il veut prendre sa place, l'homme-dieu, donc détestant Dieu parce qu'il veut prendre sa place, n'a qu'une hâte, effacer la parole disant que l'homme a été fait à l'image de Dieu, en la remplaçant par celle disant qu'il s'est fait à l'image de lui-même et rien d'autre. L'homme mesurant tout sans que rien ne le mesure, il est comme les dieux. Il a pris leur place. L'homme est et doit être le centre de tout. C'est l'homme qui est Dieu. Dieu grise la modernité, l'homme-dieu, évidemment, grise la modernité en lui faisant croire que l'homme peut tout mesurer, tout construire. Cela donne des subjectivités impatientes qui ne supportent aucun obstacle. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui exalte l'affirmation de soi ainsi que la volonté de puissance. Hyper-individualisme, narcissisme, fragilité. Derrière l'individu schizoïde vivant dans son moi, en surfant sur la vague de l'existence de façon décomplexée, on a en réalité affaire à un individu incapable de supporter le manque et s'écroulant à la première frustration. Cette description ne nous rappelle-t-elle rien? C'est exactement celle de Satan. Qui veut prendre la place de Dieu et qui propose, je vous l'ai rappelé, au Christ lui-même de l'adorer dans la troisième tentation au désert. Et je passe un petit peu parce que j'avais développé encore plus longuement ici. Je dois m'arrêter à 37, ça va? Et Fabrice Adjad a imaginez une contrefaçon du Magnificat, mais à la façon Satan. Satan, vous savez, il est appelé parfois le singe de Dieu, ce qui imite Dieu, mais à l'envers. Et Fabrice Adjad a attiré d'ailleurs l'attention sur un phénomène très curieux, c'est que les épiphanies de Dieu se produisent à certains endroits, par exemple à Bethléem. Eh bien, à Bethléem, le diable apparaît, c'est le massacre des innocents. Et Satan va singer Dieu même dans ses manifestations publiques dans les évangiles. Malheureusement, j'ai oublié de reprendre ce passage. Et donc, c'est vraiment le singe de Dieu. Alors, quel est le magnificat du diable qui singe l'hymne d'exultation de Marie? Mon âme s'exalte elle-même. Exulte mon esprit en moi, mon propre sauveur. Je me suis redressé comme mon propre maître. Désormais, tous les âges me diront autonome. Pauvre Magnificat. Et le père Alphonse, dans le dialogue avec le patriarche Chénouda, rappelle cette phrase de Prévert. Prévert a dit beaucoup de très belles choses, mais il en a dit une un peu moins belle et nettement moins belle. Il a dit « Notre Père qui est aux cieux, reste-y. » Et partant de là, le père Alphonse imagine une contrefaçon au Notre Père. Notre Père reste au ciel. Mon nom est sanctifié. Mon règne est arrivé. Je jouis tout seul et pour toujours de l'horrible liberté que j'ai revendiquée de n'avoir de personne, de ne dépendre de personne. Enfin, ma volonté est faite. Vous trouverez ça dans les citations, mais évidemment, ce n'est pas le Magnificat du Père Alphonse, c'est le Magnificat ou le Notre Père de Satan. Une autre tentation extrêmement subtile, c'est la fausse sécurité. Nous pouvons être tentés dans notre vie spirituelle de nous croire arrivés et de nous installer dans un certain confort. Tentation à nouveau qui est celle de Pierre, décidément. Pierre, il a fait toutes les gaffes possibles et c'est merveilleux parce qu'on peut souvent le citer en exemple, mais c'est un homme admirable. Mais rappelez-vous, lors de la transfiguration, il veut planter sa tente, Pierre, rester sur la montagne, s'installer, enfin, ah là, on sera bien. Et donc, nous pensons parfois avoir trouvé le lieu, le rite, la prière, la communauté, qui nous nourrissent parfaitement et nous procurent un sentiment de bien-être trompeur. Satan déploie ses ruses pour entraver notre évolution, nous arrêter sur le chemin, je vous l'ai déjà dit, nous faisant croire que l'aire de pique-nique que nous avons trouvée et qui est bien plaisante est l'entrée du paradis. Or, la voie spirituelle n'est que passage, avancée, progression, mise en question, mise en cause, transformation, mutation incessante. C'est le chemin, le fameux chemin de l'image vers la ressemblance. Que le malin parsème d'obstacles, nous avons vu, c'est son rôle, très bien, mais pour bloquer notre dynamisme, contrairement à l'Esprit Saint, qui ne cesse, lui, de nous pousser en avant, de nous déstabiliser constamment pour nous faire avancer. Comme l'écrivait Callistos Ware dans L'île au-delà du monde, il rappelle que la doctrine de l'image, la ressemblance, la doctrine de l'image entraîne une conception extrêmement dynamique de ce que signifie être une personne. Chaque être humain est un pèlerin engagé dans un voyage ininterrompu de l'image vers la ressemblance. Homo viator. Être un homme, c'est être un voyageur, toujours en mouvement. La qualité de personne implique une découverte constante, des commencements toujours nouveaux, un dépassement de soi incessant. Et il rappelle cette belle phrase de saint Paul, « Oubliant le chemin parcouru, je vais droit vers l'avant, tendu de tout mon être, je cours vers le but. » Et dans les traditions orientales, on a une très belle expression pour décrire ce dynamisme de la vie spirituelle qui ne s'arrête jamais, de l'humilité, de la disponibilité, de cette ouverture, on parle de conserver l'esprit de débutant. Et voici un petit extrait d'un maître zen que vous connaissez certainement, Suzuki, qui écrit dans Esprit zen, Esprit neuf, « Le plus difficile, c'est de garder toujours votre esprit de débutant. Dans l'esprit de débutant n'existe pas la pensée « Ah, j'ai atteint quelque chose. » Toutes les pensées égocentriques limitent notre vaste esprit. Lorsque nous n'avons pas l'idée de réalisation, pas l'idée de soi, nous sommes de vrais débutants. Alors nous pouvons réellement apprendre quelque chose. C'est aussi le vrai secret des arts martiaux, toujours être un débutant. Faites très, très attention à ce point. L'esprit du débutant contient beaucoup de possibilités, l'esprit de l'expert en contient peu. Et donc m'arrêter dans le chemin spirituel, c'est me complaire dans ce que je connais et qui me rassure, qui me convient. C'est m'illusionner sur mon état d'accomplissement intérieur. C'est-à-dire m'endormir, comme on dit, sur mes lauriers. Or, les lauriers, comme vous le savez, on voit ça après les rameaux, fanent très vite. N'est-ce pas d'ailleurs l'attitude fondamentale des pharisiens que condamne Jésus, l'illusion d'être vertueux, d'être avancé, d'être sage, d'être parfaitement en ordre, d'être conforme. Alors que seule l'humilité, le sentiment de mon insuffisance, mon désir de progresser avec l'aide constante de l'Esprit Saint qui me déstabilise, peuvent me donner les ailes de la colombe. Et nous avons une très belle parabole qui illustre cela, c'est la parabole du scribe et du publicain. Le scribe, très content de lui, au premier rang, et le publicain, dans le fond, disant « Je ne suis pas digne, je ne suis pas digne, Seigneur, aie pitié. » Alors, nous sommes à 5 minutes du terme, courage. J'allais aborder ici quelque chose qui, malheureusement, prend plus que 5 minutes, alors je ne vais faire que l'effleurer, et quand j'aurai photocopié le travail, vous le lirez, si vous le souhaitez. Un autre piège qui n'est pas du tout évident, et pourtant qui est très très intéressant et très important de le repérer, c'est la pensée duelle. Ce n'est pas, à proprement parler, une tentation comme telle. C'est une très mauvaise habitude que nous avons en Occident et qui nous vient du rationalisme exacerbé qui sévit chez nous depuis le XVIIe siècle. Nous avons l'habitude de penser de manière binaire, en opposant les termes, le noir, le blanc, le vide, le plein, le creux, etc. Et nous sommes victimes d'une manière de penser dualiste, qui oppose, sépare, compare. La pensée occidentale se nourrit donc très pauvrement à une dialectique des contraires. Quelle que soit la prolifération de l'erreur, écrit Fabrice Adjadj, toujours lui, son principe semble être d'abord la dualité. Donc le principe de l'erreur, la dualité. Les deux fragments de la vérité scindée deviennent adversaires. Et par la suite, du fait de leur instabilité, se fragmentent à leur tour et ainsi enchaînent, comme dans une fission nucléaire. Or la vérité consiste à tenir ces deux ensemble. La vérité, écrit-il, est toujours trinitaire. Il n'y a pas l'un et l'autre, il y a l'un et l'autre et leurs relations. C'est un sujet extrêmement riche et qui mériterait plus des 4 minutes qui me restent à développer. Que vient faire Satan là-dedans, me direz-vous? Eh bien, Fabrice Adjadj fait le lien, si je puis dire. Le diable rapplique toujours pour que la relation soit rompue et que l'un se dresse contre l'autre. C'est le 2 du duel. Ainsi, le chiffre 2 est-il celui de l'épreuve? Ou bien on va vers moins que 2 dans la séparation et on se retrouve seul, ou bien on va vers plus que 2 dans l'ouverture à un insaisissable tiers. Et c'est la pensée trinitaire. Rappelons-nous que diabolos, celui qui sépare, qui divise, qui oppose. Et donc le malin est magnifiquement heureux d'introduire dans notre intelligence une sorte de division et d'incapacité de penser la totalité, à accueillir la globalité dans tous ses aspects antinomiques. Annick de Souzenel écrit par exemple « Le diviseur coupe le crié de l'incrié. » Il y a le crié d'un côté, un crié de l'autre. Le multiple du 1. Petit commentaire. Quand on coupe le crié de l'incrié, on méconnaît, on refuse l'incarnation. Puisque l'incarnation, par définition, c'est l'incrié qui entre dans le crié. Quand on coupe le multiple du 1, on refuse la vie trinitaire. Puisque la vie trinitaire est, par définition, l'un, l'union dans la diversité parfaite. Et donc, continue Annick, on laisse le crier s'émietter sans ordre dans une horizontalité rampante, qui est celle du labyrinthe, où ne règne pour l'homme que l'illusion de sa liberté souveraine. Alors, si vous m'accordez encore 5 minutes, je vous donne quelques exemples pour illustrer ce que je viens de dire, parce que c'est un sujet important. Les effets néfastes de la pensée binaire dans la tradition chrétienne. Nous avons vu par exemple, et je vous le redis ici d'une autre manière, que tous les courants hérétiques sont fondés sur la pensée dualiste, qui sépare le créé de l'incréé, notamment, qui sépare l'homme de Dieu, qui sépare la divinité du Christ de son humanité. Et ce type de pensée réductrice, dualiste, nous fait rejeter les dogmes. Parce que les dogmes, fondamentalement, sont, vous le savez, on l'a répété assez souvent, antinomiques. Que le Christ soit Dieu à 100% et homme à 100%, voilà quelque chose que l'arithmétique d'Euclide rejetterait. 1 plus 1 égale 2. Eh bien non, ici 1 plus 1 égale 1. Que Dieu soit 1 et 3, c'est impossible que 1 équivale à 3. Et pourtant, c'est la pensée du dogme trinitaire. Que Marie soit vierge et mère, c'est impossible. Et pourtant, c'est le dogme de Marie vierge et mère. Et Mgr Jean de Saint-Denis enseignait à ses étudiants à penser par triade. Vous allez voir, pour sortir de ce dualisme appauvrissant qui domine la pensée occidentale, penser par triade. Et il écrivait dans l'initiation trinitaire, le monde est rempli de triades. Les triades et les trinités constituent la perception directe la plus simple, la plus exacte, la base des visions de l'équilibre des réalités. Aussitôt que nous cessons de voir les choses directement et immédiatement, la trinité et les triades nous échappent. Malgré notre désir de l'un, malgré le dualisme de notre intelligence qui oppose, réfléchit, hésite, synthétise, compare, et bien que notre intelligence soit duelle, et notre cœur et notre désir soient toujours tendus vers l'un, malgré cela, la perception immédiate enfantine, la prise de conscience des choses est trinitaire. Les triades sont multiples dans toutes les traditions humaines, même les plus antiques, de même dans les rites antiques, sans parler des rites chrétiens. Nous voyons par exemple répéter 3 fois les mots « saint, saint, saint » pour qu'ils soient puissants et féconds, ou bien 3 fois faire le tour d'un objet, par exemple faire le tour de l'autel. Quant au conte de fées, on y retrouve toujours les 3 épreuves, les 3 fils, les 3 filles, etc. Je vous invite à approfondir en lisant l'initiation trinitaire de Mgr Jean, ce sujet tout à fait central. Et prenons, et je terminerai par là, quelques exemples de triades. Nous pouvons opposer la pensée et la parole, mais en oubliant quelque chose d'essentiel, le souffle. Nous pouvons aussi considérer le créer et l'incréer, en oubliant le troisième terme, le devenir du créer. Nous ne pouvons pas non plus oublier que la hauteur et la largeur appellent la profondeur. Voir un corps et une âme dans l'homme, comme on l'a vu en Occident depuis le XVIIe siècle, en oubliant l'esprit, troisième terme. Contempler en Christ le Dieu et l'homme, sans voir qu'il ouvre à une troisième réalité tout à fait essentielle pour nous, qui est l'homme déifié. Si nous occultons chaque fois le troisième terme, par exemple, pensée, parole, nous oublions le souffle. Si nous prenons le crier et l'incrié, nous oublions le devenir du crier. Nous voyons à quel point la pensée triadique est beaucoup plus riche, beaucoup plus dynamique, beaucoup plus globalisante, holistique que la pensée duelle. Et Dieu merci, à notre époque, vous le savez, on a déjà évoqué aussi, la physique quantique a remis en question la manière binaire de réfléchir et même d'analyser, d'appréhender la réalité, même la réalité matérielle. Et les physiciens maintenant et les hommes de science sont sortis de ce déterminisme, de ce réductionnisme, de ce positivisme qui a eu cours pendant très longtemps, au moins 2 siècles, pour réintroduire l'aléatoire, le contingent, l'imprévu, même dans la matière. Voilà, je n'ai plus le temps de développer ça dans notre vie quotidienne. Si vous avez le courage, vous lirez ça dans le syllabus que je copierai un de ces jours. Voilà, j'en termine ici. Merci de votre charmante attention.